À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
Merci la vie, ouais.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie.
Chers amis auditrices, chers amis auditeurs de Radio Cité, ce matin je suis avec Daniel Vermus, peut-être que vous le connaissez de par sa plume déjà, il est journaliste, il est devant moi maintenant et puis je vais lui demander, quand quelqu'un vous dit « merci la vie », comment cela résonne en vous Daniel Vermus ?
Eh bien, de plus en plus, je suis conscient que la gratitude c'est le meilleur moyen d'écarter tous les soucis, toutes les anxiétés, toutes les angoisses par rapport au futur, toutes les colères. Voilà, merci la vie, c'est une façon de dire j'existe, c'est magnifique, les autres existent aussi. Et la planète bleue dans l'univers existe, et merci, voilà.
Et dans le c'est concret, magnifique. Comme ça, est-ce qu'il y a un exemple qui pourrait nous donner un détail sur le moment où d'un seul coup il y a une petite étincelle qui provoque cette réaction chez vous ?
Eh bien, bon, évidemment, les plus beaux moments de la vie, c'est par exemple quand on tombe amoureux et qu'on est aimé, évidemment, quand on aime, on est aimé, ça c'est... Là, ça retentit tout de suite, le merci est là. Et puis aussi d'autres moments comme la naissance d'un enfant ou d'un petit enfant, ce qui est mon cas, maintenant j'ai 3 petits enfants. Ça, c'est des moments où spontanément, on est dans la gratitude et l'émerveillement.
Comme vous avez parcouru plus que 50 pays en Afrique, en Amérique latine et en Asie, je pense que dans certains cas, vous l'avez peut-être échappé belle dans certaines situations. Et puis quand on en ressort, je pense que ça aussi, ça résonne du côté de « waouh, merci la vie ».
Oui, là j'étais dans une manifestation pour la paix au Salvador, en pleine guerre civile dans les années 90, à San Salvador. Et là, les manifestants pacifistes qui donc s'opposaient à la fois au Front de Libération, Farabundo Martí, et au gouvernement fasciste, hein, très répressif, eh bien, il y a des tireurs qui probablement étaient des soldats à la solde du gouvernement qui ont commencé à tirer sur la foule. La foule, c'était des gens, des grands-mères, des familles, des jeunes et des gens comme moi qui étaient là, pacifiquement, et on s'est tous couchés à terre, et puis je me suis dit, ah non, alors vraiment, pourquoi je suis là ? C'était pas du tout merci la vie, c'était, mais qu'est-ce que je fous là ? Dans une guerre qui est pas la mienne, et moi j'ai 3 enfants, je vais pas mourir comme ça, bêtement, parce que je suis là au mauvais endroit. Mais finalement, bon, tout s'est arrangé, je vais pas vous raconter tous les détails de cette aventure, mais on s'en est sorti et on s'est réfugié dans la cathédrale de San Salvador. On a passé une nuit merveilleuse avec toutes sortes de gens extraordinaires.
Ah là, vous avez pu décompresser un petit peu là, je pense.
Ouais.
Si je change de continent maintenant, vous avez dit l'Afrique est l'origine et l'avenir de l'humanité. Quand vous parlez de l'avenir de l'humanité, vous la voyez comment vous ?
Justement, si je prends l'exemple de l'Afrique, c'est j'ai beaucoup reçu de l'Afrique. On dit toujours qu'en Afrique, il y a la pauvreté, il y a un manque d'énergie pour sortir les pays, que ce soit les gouvernements ou les sociétés en général, pour sortir les pays de leur marasme. Et ça on le constate quand on voit l'évolution quand même en Asie et en Amérique latine. En Afrique, cette évolution ne se produit pas, ou en tout cas pas selon les critères de l'Occident, selon les critères de développement de l'Occident, donc industrialisation, éducation, santé, etc., etc. Et pourtant, quand on est en Afrique, on voit bon, évidemment, il ne faut pas se trouver dans des situations épouvantables, dans des crises humanitaires ou des famines, mais quand on est dans la vie quotidienne en Afrique, même avec beaucoup de pauvreté, eh bien, on est dans des situations de sérénité et de partage, de vivre ensemble, qui est une leçon extraordinaire pour tous les autres peuples. Et c'est ça qui m'a donné l'idée que l'Afrique, au fond, détient par son savoir-être, ce contact merveilleux qu'il y a avec le présent, avec le sourire, avec la joie, quoi qu'il arrive, c'est pas un cliché, hein, c'est vraiment ça qu'on ressent, surtout dans des villages, eh bien, ça représente l'avenir, en tout cas le monde tel que je voudrais le voir arriver, que ce soit dans mon propre monde à moi ou dans le monde entier. Voilà, pour moi, l'Afrique est un modèle.
Eh bien, ça fera plaisir à nos auditrices et auditeurs africains, parce que vous devez savoir que ces podcasts sont très écoutés dans les pays africains francophones. Donc, c'est un grand plaisir pour eux, j'en suis persuadé. Et puis, je les salue aussi. Vous avez créé, en 1988, InfoSud. Vous dites également que les médias sont des acteurs incontournables des défis mondiaux, pour autant qu'ils soient objectifs. Est-ce que c'est parce que vous avez peut-être le sentiment qu'ils ne le sont pas toujours vraiment que vous avez fondé cette InfoSud?
Oui, bon, y aurait beaucoup de choses à dire. Hein.
Mais allons-y.
Bon, d'une part, les médias, moi je crois beaucoup au rôle des médias. Je suis évidemment très critique par rapport à la façon dont ils fonctionnent. On connaît tous les gros défauts de l'industrie médiatique, le fait qu'elle est contrôlée par certains pouvoirs économiques, etc. Mais n'empêche que c'est un rôle qui est indispensable. C'est un peu le système nerveux de l'organisme social. C'est un système nerveux qui avertit quand il y a des choses qui font mal. Hein, comme quand vous cassez la jambe, vous avez mal, ou vous foulez la cheville, vous avez mal à la cheville, et puis donc votre cerveau est obligé de dire bon, maintenant il faut que je fasse quelque chose. Donc les médias devraient jouer ce rôle-là, montrer les dysfonctionnements et en même temps montrer aussi ce qui pourrait aller mieux, les solutions. Et donc pour moi, le fait d'avoir voyagé dans des pays africains, dans des villages, j'ai découvert des modes de vie qui pourrait aussi être intéressant à connaître pour les Occidentaux que nous sommes, stressés, toujours à regarder la montre, toujours anticiper un futur et ne pas être dans le présent. Eh bien, tout ça, on a un sous-développement en Occident à ce niveau-là. Et du coup, je me disais, si on avait des bons médias, ils pourraient aussi nous renseigner sur ce qui ne va pas, évidemment, dans les relations Nord-Sud, mais sur ce qui va aussi, et sur les choses qu'on a à apprendre de l'autre. Donc, c'était ça l'idée, c'est la voix du Sud dans les médias du Nord, hein, InfoSud. C'est suite à plusieurs voyages que j'ai faits, à la fois en Afrique, mais aussi en Amérique latine et en Asie, qui m'ont donné l'idée qu'au fond, on n'entend pas assez parler de ces populations, qui sont quand même les trois quarts de l'humanité, et on n'en entend parler que quand il y a des catastrophes. Et des catastrophes où l'Occident vient jouer le rôle de pompier humanitaire.
Ouais, où des fois ils donnent un petit peu de la main droite et puis de la main gauche ils en prennent beaucoup plus. C'est votre avis également ?
Voilà. Oui, j'appelle ça la main gauche de l'humanitaire et la main droite des affaires. Hein. Ça, c'est la Suisse. Très douée pour ça.
C'est joliment dit.
Voilà.
Donc, InfoSud en 1988, qu'est-ce qu'il en est advenu de cette... D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la première fois que nos regards se sont croisés. Je suis passé dans ce bureau-là il y a plusieurs décennies, et c'est à ce moment-là Oui, absolument. J'étais en train de monter un événement sur Genève à caractère social, et puis j'étais venu vous voir. Mais c'est pas vous, c'était, une jeune femme qui était à vos côtés qui m'avait reçu, c'est possible?
Ah oui, parce qu'on était en fait dans un centre d'information sur les problèmes du tiers-monde. À l'époque, on appelait ça comme ça, hein, information tiers-monde. Et il y avait donc un centre de documentation et puis un service qui travaille avec les écoles, qui donnait des propositions de programmes ou d'activités aux professeurs sur les relations Nord-Sud. Et puis, il y avait, nouvellement créé par moi, une agence de presse qu'on a appelé InfoSud, donc qui était en fait financé au départ par les organisations suisses d'entraide, donc ce qu'on appelait la communauté de travail suisse, Action de Carême, Pain pour le Prochain, Helvetas et Caritas.
Voilà. Ah ben un beau bouquet de solidarité là.
Voilà, mais InfoSud a tout de suite affirmé son indépendance complète par rapport à ces organismes, même s'il recevait un soutien financier qui a d'ailleurs ensuite diminué parce qu'InfoSud a généré ses propres recettes. Et nous nous sommes fait accepter par les médias suisses comme étant crédibles sur le plan journalistique, c'est-à-dire capables aussi de critiquer les milieux humanitaires, les milieux de développement. Après, ça a essaimé aussi en Belgique, en France pas trop. très difficile, le marché français, et en Afrique francophone.
Alors, je vais relever que si j'ai connu Info Sud, c'est un journaliste de la Tribune de Genève, là où vous avez également posé votre plume un certain temps, qui m'avait dit que vous existiez dans le cadre de ce que j'avais besoin comme information. Et puis il y a Biovision. Biovision, ça c'est plus récent.
Oui, alors ça c'est beaucoup, oui, c'est... Disons qu'il y a un lien parce que Biovision est une organisation d'aide qui travaille sur le domaine écologique, c'est-à-dire qui dit qu'il n'y aura pas de développement sans préservation de la nature. Donc ils arrivent à relier les deux enjeux, éliminer la pauvreté dans les zones rurales en préservant la nature, c'est-à-dire en développant l'agriculture biologique en fait. Où maintenant on appelle ça agroécologie. Donc Biovision a été fondée par un grand agronome qui s'appelle Hans Herron, qui avait reçu le prix mondial de l'alimentation parce qu'il a sauvé l'Afrique dans les années 80 d'une famine terrible due à la cochenille du manioc, une cochenille qui était en fait importée clandestinement par des bateaux de l'Amérique latine. C'est souvent comme ça que les maladies maintenant se répandent dans le monde, comme le Covid-19 d'ailleurs aussi tout récemment, mais sur le plan agronomique, il y a de plus en plus de fléaux qui sont dus à la mondialisation. Et en Afrique, il n'y avait pas d'ennemis naturels contre cette cochenille. Donc Hans Herron est allé en Amérique latine, il a sillonné un peu partout tous les pays, il a fini par arriver au Paraguay, où il a retrouvé au fond la variété de manioc qui était infesté par une cochenille, et il a trouvé l'ennemi naturel de cette cochenille, qui était une guêpe parasitoïde, minuscule guêpe. Et il a fait toute une série de recherches sur cette guêpe, il l'a importée en Afrique, et il a vérifié qu'elle n'allait pas créer d'autres problèmes écologiques, d'autres déséquilibres. Et finalement, au bout d'une année, ils ont lâché cette guêpe, qui a détruit tous les parasites en l'espace de quelques semaines sur tout le continent. Donc il a ensuite reçu le prix mondial de l'alimentation des mains du président Clinton pour, on a estimé qu'il a sauvé 20 millions de personnes d'une mort certaine due à la famine de ce produit alimentaire basique de toute une partie de l'Afrique. Et donc avec l'argent du prix, il a créé Biovision, qui était donc basé sur l'idée qu'en faisant une recherche scientifique sur les ennemis des cultures, les principaux parasites, eh bien, on pouvait éviter d'une part des dégradations environnementales quand on utilise des produits chimiques et des empoisonnements d'habitants qui sont très fréquents en Afrique. Il y a beaucoup de morts dues à l'utilisation de produits chimiques. Et en même temps, développer une agriculture qui régénère les sols au lieu de les épuiser. Donc c'est ça l'agriculture biologique. Bon, il a développé plein de méthodes dans le cadre de Biovision, qui travaille avec un institut scientifique au Kenya, qui est toujours présent sur le terrain, qui s'appelle le Centre de recherche international de recherche sur les insectes, ICP, qui est très connu et qui a formé des centaines de chercheurs africains et qui a développé donc des réponses biologique ou écologique à la plupart des problèmes, y compris la malaria, posée par les parasites.
C'est très intéressant cela. Avec Biovision, vous êtes en relation avec des organisations internationales. Je pense qu'on peut vous croiser de temps en temps à l'ONU et dans d'autres organisations du genre.
L'idée, c'est de promouvoir, parce que Biovision a des projets sur le terrain. Donc en fait, j'ai quitté le journalisme, pas totalement, mais largement, parce qu'il y a eu une crise du journalisme que tout le monde connaît maintenant, qui fait que ce genre de thématique que nous avons traité dans le cadre d'InfoSud n'avait plus aucun débouché économique. D'ailleurs, la presse écrite disparaît largement, et puis les moyens économiques de la presse écrite se réduisent. Donc, le modèle InfoSud a dû se terminer vers l'année 2010 environ. Et du coup, j'avais noué, dans le cadre de mes activités journalistes, des contacts avec beaucoup d'ONG, et notamment Biovision. Et donc, je leur ai proposé aussi pour subvenir à mes propres besoins, je leur ai proposé de faire les traductions de leur matériel, leur publication d'allemand en français ou bien d'anglais en français. Et puis, en même temps, de leur donner aussi accès au réseau de Genève International que j'avais. Donc, c'est comme ça que je travaille avec Biovision. Et bon, BioVision, ça rentre tout à fait dans le cadre de ce que j'ai essayé de faire dans le journalisme, c'est-à-dire faire mieux connaître les enjeux, les grandes questions qui concernent tout le monde, les consommateurs de chez nous et les populations victimes de ces déséquilibres dans les pays du Sud. Et BioVision, c'est aussi un peu la même chose, travaille à la fois dans des projets en Afrique pour permettre aux paysans de trouver des revenus tout en préservant la nature, et puis aux consommateurs de chez nous de prendre conscience des dégâts que pose une agriculture industrielle qui non seulement épuise les sols, empoisonne les sols, mais aussi accélère le changement climatique, parce que beaucoup de gaz à effet de serre viennent de ces pratiques agricoles. On estime même que 50% du changement climatique serait résolu si on passait à des pratiques agroécologiques. Wow. Donc c'est un peu la même démarche. Et au niveau international, BioVision a aussi agi pour, notamment dans le cadre l'élaboration des objectifs de développement durable, hein, vous connaissez sans doute, et dont le deuxième objectif s'appelle Fin Zéro. Et là, BioVision a agi dans les coulisses, hein, des préparatifs de ces objectifs entre 2012 et 2015 pour qu'on inclue dans les sous-objectifs liés à cette problématique. On inclut d'une part le fait que ce sont les paysans qui produisent la nourriture et non pas les groupes agro-industriels. D'autre part que les paysans doivent avoir accès à toute une série d'inputs, notamment les semences, et que l'agriculture doit être soutenable, durable. Voilà, donc BioVision agit un peu à trois niveaux, hein, sur le terrain pour montrer que c'est possible, au niveau international pour faire changer de cap l'ensemble de l'agriculture mondiale, et au niveau suisse pour faire prendre conscience notamment aux jeunes, aux élèves des écoles, du fait que nos pratiques de consommation peuvent avoir des impacts très importants, non seulement sur notre santé, mais aussi dans les équilibres mondiaux.
Donc, si vous voulez bien, je mettrai l'adresse du site internet de BioVision. Et je pense qu'on peut vous retrouver quelque part aussi pour des gens qui aimeraient avoir plus d'informations spécifiques. Et vous y retrouvez également ?
Oui, donc je suis sur la liste des collaborateurs de BioVision qu'on peut trouver, bien sûr. Et puis, il y a donc tout ce qu'on peut lire en français sur le site de BioVision, c'est essentiellement moi qui le traduis.
Eh bien voilà, vous retrouverez la plume de Daniel Vermus sur BioVision. J'espère de nouveau pouvoir vous interroger sur un autre sujet, parce que là on arrive déjà quasiment au terme de l'émission. On a donc parcouru le monde, on est allé en Amérique latine, on est allé en Afrique, un petit peu en Europe aussi, et puis il nous reste l'Inde, où vous faites partie d'un magnifique projet qui s'appelle Jai Jagat, et j'espère que nous aurons prochainement l'occasion d'en discuter. En tout cas, ça serait un plaisir si vous voulez bien.
Voilà, ça s'inscrit en droite ligne de toutes les activités que j'ai essayé d'avoir, donc de participer à un changement mondial pacifique, à travers justement aussi l'intérêt pour les autres peuples, l'amour pour la planète, pour la nature, et puis donc ce qui doit découler de tout ça, c'est évidemment le rassemblement de toutes les énergies pour aller vers ce fameux changement de cap qui est pas seulement écologique, mais qui est aussi intérieur dans l'être humain.
C'est sur ces belles paroles, Daniel Vermus, qu'on vous laisse, que nous vous remercions de nous avoir accordé un peu de votre temps. Et puis, à tout bientôt, j'espère. Et puis, je vous dis merci la vie.
Merci la vie.
À tout bientôt.
Au revoir.